le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Accepteriez-vous d'être jugé par un algorithme? Les animaux ont-ils tous les mêmes droits? Comment parle-t-on de la violence sur Internet? Histoire, sociologie, médecine, droit, informatique, les bibliothèques universitaires et Radio U s'associent pour créer et diffuser une émission bimensuelle de médiation scientifique. Table ronde sciences et société, rencontre histoire de ma thèse ou histoire de ma recherche viendront nourrir le Lab U sur le 101.1 FM. A-t-on le droit d'abandonner son animal de compagnie? Devrait-on interdire certaines pratiques d'abattage? L'expérimentation sur des animaux est-elle nécessaire? Quel statut faut-il conférer à l'animal pour le protéger et pour concilier les intérêts en présence? Pour en débattre, nous avons invité Isabelle Desmellet, maître de conférence en droit privé à l'UBO et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau. Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie à l'UBO. Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités à Limoges, membre de l'Institut du droit européen des droits de l'homme et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Pour entamer notre réflexion, nous nous intéressons dans ce numéro à la façon dont les juristes et les physiologistes définissent et classent les animaux. La parole à M. Marguenot.
Il y a plusieurs questions dans la première, oui. Celle de la définition de l'animal et celle de sa classification dans les grandes catégories. Le droit, à ma connaissance, ne définit pas l'animal en général. Il y a l'article 515-14 du Code civil qui a été ajouté par la loi du 16 février 2015 qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais ce n'est pas une manière de caractériser les animaux puisque les êtres humains sont aussi des êtres vivants doués de sensibilité. La seule définition générale que je connaisse figure dans un vieux dictionnaire juridique de la fin du 19e siècle où il est dit les animaux sont des êtres vivants autres que les êtres humains. Et c'était déjà bien à la fin du 19e siècle de dire « être », mais c'est une définition très très... En revanche, le droit, c'est définir un certain nombre de catégories d'animaux. La grande distinction, c'est entre les animaux domestiques apprivoisés et tenus en captivité, qui sont protégés contre les mauvais traitements d'un côté, les actes de cruauté, les sévices graves, les sévices sexuels, les abandons volontaires, et les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle, lesquels peuvent être défendus, protégés, en raison des menaces qui pèsent sur l'espèce à laquelle ils appartiennent, mais qui ne sont pas définis pour eux-mêmes en tant qu'individus sensibles, puisque les dispositions du code pénal que je viens d'évoquer ne sont pas applicables aux animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle. On peut tuer un par telle ou telle pratique de chasse, ou autre, à titre personnel, n'importe quel animal sauvage en lui infligeant les pires tortures sans que ça tombe sous le coup de la protection pénale. Alors l'autre grande question, c'est de savoir si où se trouvent les animaux par rapport à la distinction cardinale dans un système juridique comme le nôtre entre les personnes et les biens.
Oui.
Souhaitez-vous que je réponde à cette question-là tout de suite, dans la foulée?
Allez-y, oui, très bien de l'avoir posé, une bonne question. Comment faire entre animal et entre bien et personne? Où ça se situe, l'animal?
Donc, une petite précision, distinction pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas juristes. Les biens et les choses, c'est un peu différent. Les biens sont les choses appropriées. Mais pour la commodité de l'exposé, on parle des biens en général, même si souvent ce sont des choses. Enfin bref, c'est la même idée. Donc d'un côté, les biens, de l'autre, les personnes. d'un côté les objets de droit, de l'autre côté les sujets de droit. Et les animaux ont été, depuis des siècles, et surtout en France, pays de Descartes et de la théorie des animaux-machines, enfermés dans la catégorie des choses, dans la catégorie des biens, particulièrement des biens meubles par nature ou des biens immeubles par destination. Et les choses ont changé depuis la loi du 16 février 2015 qui a ajouté l'article 515-14 dont je viens de vous donner un élément et qui a soustrait méthodiquement toute trace de la présence des animaux dans les deux catégories ou sous-catégories de biens que l'on connaisse, c'est-à-dire les meubles et les immeubles. Et aujourd'hui, on peut dire que, sous réserve d'une petite ambiguïté technique sur laquelle je pourrais revenir, que les animaux ont été extraits de la catégorie des biens où ils étaient cadenassés depuis des siècles. Ils ne sont plus des biens. Mais ils ne sont pas pour autant devenus des personnes. Ils sont dans une sorte de situation de lévitation juridique. D'accord. Et est-ce que ça va tenir longtemps, suspendu en l'air comme ça ?
Oui, justement, est-ce que cet éclatement fait du tort aux animaux ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible, suite à l'issue du colloque là, de les réunir à la fois dans une même catégorie et un même régime, sous un même régime. Comment vous voyez cette affaire ?
C'est très difficile de les réunir tous dans la même catégorie. Je viens d'essayer de passer une quarantaine de minutes dans le colloque que vous
avez. Oui, mais alors là, c'est d'autres personnes.
À essayer d'évoquer la possibilité de verser tous les animaux dans une catégorie commune qui attirerait à leur bénéfice une protection identique, ça serait très, très difficile d'y arriver assez rapidement. En tout cas, on peut améliorer la protection, non pas de tous ensemble, mais d'animaux catégorie par catégorie d'animaux par un changement de statut en versant quelques-uns, peut-être dans la catégorie des personnes techniques comme les personnes morales, par exemple.
Peut-être une autre façon de poser la question, c'est il y a les grandes logiques qui président à la catégorisation actuelle des animaux. C'est leur relation aux hommes. Ils sont animaux d'élevage, ils sont animaux sauvages, ils sont animaux de compagnie. Est-ce qu'on pourrait résumer ces principes de catégorisation ? Et quel autre grand principe pourrait affaiblir ces principes qui ont donné ces catégories pour classer les animaux ?
Ce sont des catégories qui n'en sont pas vraiment. Il y a toute une série de décrets, d'arrêtés qui visent la protection de tel ou tel type d'animaux en fonction de l'exploitation à laquelle ils sont soumis. Pour les animaux d'élevage, il y a des arrêtés qui visent la façon dont doivent être traités les bovins, doivent être traités les oies, dont doivent être traités les portes. C'est toute une série de listes de mesures adaptées à la protection de tel ou tel type d'animaux soumis à l'élevage. Donc c'est précis, mais ça ne répond pas tellement à l'idée de catégorie. C'est plutôt un fourre-tout réglementaire. Que de véritables sous-catégories.
D'accord. Je vais me tourner vers Isabelle Desmêlés. En tant que présidente d'association d'un refuge donc, qui accueille des chiens, des chats et d'autres animaux, vous avez pris la parole au nom d'animaux. Enfin, vous êtes portée partie civile. Donc est-ce qu'on pourrait détailler la façon dont quelqu'un, enfin une présidente d'association d'un refuge, peut se saisir et prendre la parole au nom d'un chien qui a été martyrisé, par exemple.
D'accord. Donc, c'est pas le... Alors, je précise Oui, oui, je précise donc effectivement, j'interviens plus particulièrement ce soir en tant qu'une des responsables du refuge. Donc, le refuge de Landerneau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite association qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant, qui a repris donc une ancienne association qui périclitait. Pour expliquer aussi, parce que c'était pourquoi reprendre la responsabilité, pourquoi être présidente d'un refuge, pour ma part, ça n'a pas du tout été un choix, ça a été un hasard, en fait, un hasard, oui, de reprendre ce refuge. Parce que pour ma part, la cause animale, ça a toujours été un de mes grands soucis, même si chez moi, dans mon foyer, je n'ai jamais eu d'animaux. Mon premier chien, je l'ai adopté à 27 ans. Et donc, je pense que ça aussi, c'est important. C'était vraiment quand je suis, j'allais dire, tombée dans la protection animale il y a un peu plus de 20 ans, vraiment un hasard. Donc, cette association qui périclitait, j'ai accepté d'en reprendre les clés. Et je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, en fait. Ça, c'est une première chose. Comment on devient présidente, parfois, il y a des histoires différentes, mais moi, ça n'a pas été par choix. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un choix. Donc, ça ne fait pas 20 ans que je suis présidente. Il y a eu plusieurs présidentes, heureusement. Ce n'est pas le rôle d'une seule personne. C'est toute une équipe aussi. Cette année, d'ailleurs, nous sommes deux co-présidentes, je voulais le souligner, parce que le refuge de Landerneau, en fait, s'est investi énormément dans différentes actions, dont on va parler tout à l'heure, dans différentes protections. C'est un petit refuge qui, normalement, a une capacité d'accueil de 23 pour 23 chiens. Et aujourd'hui, on a entre 200 et 250 animaux. Pas dans le refuge, hein, je précise, hein, si ça peut rassurer tout le monde. Mais on a développé le système des familles d'accueil pour les chats, pour les chiens donc âgés, etc., pour les lapins, pour toute forme d'animaux dits domestiques, donc même les boucs, les poules, enfin bon, bref. Donc ce qui fait que on est deux coprésidentes depuis le mois de juillet simplement. Voilà. Donc alors moi je m'occupe plus du pôle chien et donc Audrey Forgeot plus du pôle chat. Maintenant pour répondre à votre question sur
c'était la première question que j'ai oublié de poser, qui était pourquoi devenir président. Je voulais aussi vous poser la question si vous aviez des animaux domestiques. J'ai entendu parler d'Ellington, qui est votre chat, je crois.
Oui, je peux vous parler d'Ellington, mais peut-être après. Après, parce que quand je pars d'Ellington, ça peut durer des heures.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est super.
Donc on continue, voilà, sur.
Voilà. Donc, alors après, donc, quand l'association a été créée, donc il y a 21 ans, il faut savoir que le.
Comment prendre la parole au nom des animaux, c'est quand même intéressant. Ouais.
D'intenter des actions. Ah. Voilà. Il a fallu attendre 5 ans. Ça aussi peut-être, donc il n'y a pas que des juristes, pour se porter partie civile. Se porter partie civile, c'est la possibilité donc d'agir pour, si on considère être victime d'une infraction, pour obtenir réparation. Dans le cadre d'une association de protection animale, toutes les associations ne peuvent pas se porter partie civile. Il y a des critères bien définis et stricts. D'ailleurs, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, qui habilite une association à se porter partie civile. Donc il y a trois critères. Voilà, d'abord, un critère d'ancienneté. Il faut avoir 5 ans d'ancienneté. Deuxième critère, c'est son objet. Son objet doit être bien défini et clairement défini, à savoir la défense de la cause animale. Et un troisième critère, encore plus restrictif à mon sens, à savoir, il y a des infractions limitées qui peuvent être visées, à savoir les sévices graves, les actes de cruauté dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre du colloque, les mauvais traitements et la mort volontaire d'un animal. Donc seules ces quatre infractions sont susceptibles pour une association donc elle pourra se porter partie civile en invoquant ces quatre infractions. Ce qui fait que il faut une infraction grave et intentionnel. Donc tout ce qui n'est pas intentionnel, par exemple les défauts de soins, tout ce qui est négligence, l'association ne peut pas se porter partie civile et obtenir réparation donc au niveau pénal. Donc voilà. Donc le refuge de Landerneau, depuis plus de 15 ans maintenant, puisqu'il faut 5 ans d'ancienneté, donc on a fait 21 ans, donc a cette possibilité de se porter partie civile. Et donc ça fait bien longtemps, j'allais dire hélas, qu'on a intenté, enfin le refuge s'est porté partie civile pour diverses actions. Tout récemment encore, sans aller dans les détails, vous avez peut-être entendu parler d'un chien qui a été défenestré. Donc le mois dernier, donc nous sommes partis, le refuge s'est porté partie civile, et donc l'affaire a été reportée en délibéré, il me semble, en décembre. Oui. Il y a un mois, parce que si vous voulez des exemples, je peux vous en donner plein. Il y a un mois, le refuge a été, une mairie proche de Landerneau a appelé le refuge, nous indiquant que des animaux étaient laissés à l'abandon. Ils ne savaient pas exactement combien d'animaux. Donc les bénévoles du refuge se sont déplacés. On s'attendait à les 8-10 animaux, et en fin de compte, il y en avait plus de 60, dont certains décédés. Donc voilà, ça fait un mois de ça. Donc l'affaire est en cours, donc on a porté plainte. On s'est porté partie civile dans cette affaire-là également. Voilà. Je peux aussi parler en 2015 du charnier de Mélisac. Mmh. Voilà, donc où effectivement là, c'est une grosse affaire, hein, où il y avait 47 cadavres. Donc à Mélisac, c'est bien après Brest, d'animaux, plus spécifiquement des chiens. Et donc plusieurs associations se sont portées partie civile, telle la Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis. Voilà, donc alors maintenant, la personne a été condamné, entre guillemets, 6 mois de sursis. 6 mois de sursis.
Oui, tout à l'heure, on disait que le pénal ne suivait pas toujours. J'ai une deuxième question. Oui. Je vous coupe la parole.
Non, mais allez-y.
Sur toujours la définition, parce que moi, ça fait un mois que je suis sur le sujet, je me creuse la tête et j'ai des vraies questions. Dans un article sur... vous présentez le refus de Landerneau, vous l'introduisez par un parallèle que vous faites entre des enfants et des animaux. Le parallèle, il fonctionne sans doute jusqu'à un certain point. À un moment, il ne fonctionne plus. Est-ce qu'on pourrait... jusqu'où
alors,
ça fonctionne?
Le parallèle, en fait...
Vous parliez de l'histoire.
Oui, voilà. Et donc, le constat, simplement, est que la protection de l'enfance, en droit du travail, puisque donc, c'est aussi une de mes spécialités, le droit du travail, donc c'est la loi de mars 1841 qui, pour la première fois, s'est intéressée à la protection de l'enfance par le biais du droit du travail, et notamment cette fameuse loi qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Et à la même période, c'est la SPA de Paris, en 1845, qui a été créée. Donc en fait, on s'est intéressé à une espèce de prise de conscience à la fois de la protection des enfants, donc moins de 8 ans, et des animaux. Alors, le parallèle, c'est vrai qu'on pouvait interpréter, j'allais dire, cette idée de différentes façons, mais il ne s'agit pas de les mettre sur un statut d'égalité. Moi, je pensais plus à l'aspect de vulnérabilité, donc à la protection d'êtres faibles, qui n'ont pas le langage, qui ont besoin d'être représentés, et une prise de conscience à la même époque, de cette nécessité de protéger l'être faible, enfant ou animal, sans pour autant essayer de les placer sur un pied d'égalité. Ce n'était pas le sens de mes propos.
Oui.
Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la loi de 1841, en fait, elle est restée symbolique. Elle n'a jamais été appliquée. Les mentalités de cette époque n'étaient pas prêtes non plus.
Non.
Accepter qu'un enfant de 8 ans n'aille pas travailler. Et comme quand la SPA de Paris a été créée, eh bien, il y a eu énormément de contestations, disant mais pourquoi, il y a bien d'autres choses à faire que de s'occuper du mauvais traitement à animaux. Voilà, donc en fait,
d'accord,
prise de conscience en même temps, et donc il a fallu un temps d'adaptation pour que vraiment il y ait une application de la protection des enfants et des animaux.
Merci. Maintenant, je vais me tourner vers une scientifique, physiologiste, donc qui connaît peut-être mieux que nous tous, en tout cas le fonctionnement biologique des animaux. Deux questions à dire. Comment les scientifiques définissent les animaux ou la vie, enfin la vie, comment on distingue par exemple la flore de la faune? Et la grande question, c'est les scientifiques mettent-ils dans la même catégorie les animaux et les hommes du point de vue de la biologie, je veux dire.
Alors, du coup, moi, j'ai le mauvais rôle, donc je vais faire attention à ce que je raconte. D'un point de vue biologiste, l'homme, c'est un animal. D'accord, qu'on est placé en haut de l'arbre, de la hiérarchie, on va dire, mais c'est une vision anthropocentrique. Suivant les domaines de recherche sur lesquels on travaille, par exemple, si on est éthologue, on va étudier le comportement des animaux, on va se rendre compte que les animaux sont sensibles, ont des émotions et ils sont capables, certains, je vais parler du rat principalement puisque c'est là-dessus que, sur cet animal que je travaille, ils sont aussi empathiques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être communes entre l'homme et l'animal. Au niveau génétique, on est assez proche aussi. Après, suivant les espèces, on s'éloigne plus ou moins. On est assez proche du ver aussi. C'est Norabditis elegans qui est un des modèles animaux qui existe. Ça reste un ver, mais comme c'est un invertébré, du coup c'est moins choquant de travailler sur ce type d'animaux, comme sur la drosophile qui est bien connue aussi comme animal. Sur les études génétiques, on s'en sert pas mal. Donc suivant le niveau ou l'espèce qu'on va aussi étudier, on ne va pas forcément voir les choses de la même façon. Je reste sur mon avis de biologiste. L'homme est un animal.
L'homme est un animal. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant, c'est cette proximité, en fait, s'il n'y avait pas une proximité de fait, vous ne travailleriez pas sur des animaux.
Ben non, effectivement. Donc, si on va un petit peu plus loin, ce qu'on va essayer de mettre en place en recherche, par exemple, c'est de trouver des modèles animaux, alors soit des modèles qui sont proches. Alors, l'objectif étant d'étudier des pathologies communes entre l'homme et l'animal, puisque là, si on va dans un but médical, on va travailler sur des modèles animaux. Donc, certains vont développer les mêmes pathologies avec les mêmes symptômes que l'homme. Du coup, ce sont des modèles intéressants et on peut aller beaucoup plus loin sur des animaux, puisque chez l'homme, effectivement, on va travailler les biopsies, ça reste assez rare. Autrement, on va prélever du sang, on va faire beaucoup d'analyses sanguines, mais on se limite à ce genre de tissu. Alors que sur l'animal.
C'est la deuxième partie.
Oui, c'est la deuxième partie.
Mais c'est parce que je vous ai posé une question un peu piège, en fait. Ouais. J'avais une autre question, c'était sur. Puisque vous faites des expérimentations avec des animaux à des fins de recherche, on peut aussi quand même voir l'autre côté. Vous avez un animal domestique et vous avez une relation avec les rats avec lesquels vous travaillez. Alors, quelle relation peut entretenir avec des rats? Vous m'avez dit qu'ils sont intelligents. C'est vrai, je les ai vus, ils m'ont l'air vifs et intelligents. Ouais.
Donc j'ai un animal domestique, j'ai un chat qui se porte très bien, qui est ravi d'être chez moi d'ailleurs. J'ai toujours eu des animaux, donc voilà, ma sensibilité vis-à-vis des animaux, même si je fais de l'expérimentation animale, ça n'a strictement rien à voir. Donc je travaille beaucoup sur le rat, donc ce sont des animaux qui... je travaille sur l'activité physique aussi, donc je leur demande d'accomplir des tâches. En gros, je vais les faire courir sur des tapis roulants. Ce sont des animaux qui comprennent ce qu'on leur demande. Il faut les apprivoiser et puis du coup, on s'attache forcément. Alors, il faut prendre du recul quand on est aussi chercheur, puisque... Ici, c'est pas mon chat non plus à la maison, c'est pas mon animal domestique. Malgré tout, j'en prends soin. Je fais vraiment attention aussi à cet animal. Et puis, il y a quand même des échanges. Il faudrait que mes étudiants qui ont travaillé avec moi viennent aussi témoigner. Mais on a faire courir un animal sur un tapis. Il y en a 20. Il y a 20 différents. et ceux qui ont du mal le lundi matin, et puis ceux qui n'aiment pas trop la course, et puis ceux qui adorent ça, on les met, ils courent tout seuls. Voilà, donc c'est un peu comme nous en fait. Donc on est forcément très proche de ces animaux.
Les questions du public.
On a beaucoup parlé de l'expérimentation animale et de la, du refuge. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de la production, par exemple, agricole.
C'est vrai.
Parce que Jérémy Rifkin, dans un ouvrage, Beyond Beef, a écrit qu'il y avait environ 50 milliards de bœufs sur Terre, donc beaucoup plus que peut-être nécessaire. Et oui. Je voulais savoir ce qu'on en disait dans la juridiction.
Quelqu'un peut répondre, parce que moi je ne suis ni éleveur, ni juriste.
Sur le fait qu'il y ait.
Sur quelle question, là
En fait,
qui est autant, il y a 50
ans. Ma question est de l'ordre du vulgaire, hein, c'est que de la vulgarisation scientifique, ou voilà. Je ne suis pas du coup connaisseur là-dedans.
Non, mais il ne s'agit pas d'être connaisseur, donc c'est la question en fait, de l'élevage qu'on n'a pas abordé.
En fait, on n'a pas abordé peut-être le côté éthique d'une très grande production. Comment expliquer ? C'était pour peut-être production. Rationaliser. Les gens, ils mettent souvent l'expérimentation animale au même titre que la consommation de viande, par exemple. Alors qu'en fait, il y a peut-être, en termes de quantité, des priorités.
Donc la question, c'est sur l'industrialisation de l'élevage qui, personnellement, moi aussi, m'interroge. Est-ce que quelqu'un peut. Un juriste peut se prononcer sur.
Et pourquoi vous regardez
Je ne sais pas, vous me semblez omniscient.
Donc, l'élevage, quel qu'il soit, pose, d'après ce que j'ai cru comprendre, des problèmes du point de vue du réchauffement climatique. Et je crois que c'est peut-être là la question la plus grave. Moi, personnellement, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils, tant dans la ligne paternelle que dans la ligne maternelle, d'éleveur de vaches limousines. Donc la question de l'élevage, je la connais. J'ai été aide familiale, y compris pendant mes études, jusqu'à l'âge de 39 ans. Donc je fais du droit animalier et je suis l'anti-bobo parisien qui parle très théoriquement de choses qu'il ne connaît pas. J'ai tout connu, j'ai tout vu de l'élevage de A jusqu'à Z dans des petites fermes limousines. Et donc, là, j'ai par tradition familiale et personnelle, j'ai une certaine tendresse pour l'élevage traditionnel.
Il y a une transition industrielle, là.
Et c'est ce qui m'aide à me révolter contre l'élevage industriel et concentrationnaire qui a donné lieu à d'importants arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je ne vais pas toujours mélanger la casquette droit animalier, droit de l'homme, qui m'arrange beaucoup généralement parce que, comme ma collègue, on me pose souvent la question « Ah ben oui, mais tant d'énergie pour protéger les animaux alors qu'il y a tant d'enfants qui souffrent et tant de misères humaines à soulager. Bon, moi j'attends en général avec impatience cette question parce que je commence à demander à mon interlocuteur « Et vous ? Vous avez fait quoi de remarquable pour la protection des droits de l'homme ?» En général, il y a un blanc. Et pour ce qui me concerne, j'ai pris ma part. Et la question des vases communicants, si on protège plus les animaux, on va moins protéger les enfants et les êtres humains, il me semble que c'est d'une imbécilité à nul autre pareil. Parce que ça n'a strictement, il n'y a aucune correspondance. C'est une question de cœur. Et le cœur humain est suffisamment grand pour se battre avec la même énergie et pour les animaux et pour les enfants. Et je crois même qu'il peut y avoir de la synergie entre les deux. Et donc pour revenir à l'élevage et l'élevage industriel, il y a d'abord un problème d'ordre environnemental et climatique. Il y a un problème, parce que c'est lié, d'élevage concentrationnaire, contre lequel moi je lutte personnellement autant que je peux. Pour l'autre type d'élevage, bon, là, il y a des discussions. Moi, de mon expérience familiale et personnelle, j'ai toujours observé que l'élevage traditionnel, pour une grande majorité d'éleveurs, ça se pose en termes de trahison. Il y a toujours un moment dans la vie de l'éleveur où c'est vécu comme une trahison. Je ne sais pas si c'est pareil pour l'expérimentation animale. J'avais observé, c'est une parenthèse, quand j'avais travaillé la question, j'avais fait une série de conférences dans les centres de recherche de l'INRA, et j'avais été frappé par la distorsion entre les concepteurs des projets, les manipulateurs d'un côté, et de l'autre, les gens qui travaillent dans les animaleries, qui sont au contact direct des animaux qui vont un jour être soumis à telle ou telle procédure. Comme vous dites, j'ai assisté à plusieurs occasions à la détresse de ces agents des animaleries qui l'expriment peu, et j'ai bien compris qu'ils le vivaient comme une trahison, comme dans ma famille était vécue la vente du veau de Lyon ou du veau de Saint-Étienne ou de la vache. Il y avait toujours un œil qui riait parce que c'était le revenu, et un œil qui pleurait. Et il y a toujours, dans le monde agricole, dans le monde de l'élevage, cet aspect trahison que certains c'est dans le déni, certains c'est dans la détresse. Ça arrive assez souvent. Et il y avait d'autres manifestations. Voilà tout ce que je pouvais dire.
Merci à Isabelle Desmellets, maître de conférence en droit privé et présidente du refuge animalier du pays de Landerneau, à Christelle Gouanvec, maître de conférence en physiologie, à Jean-Pierre Marguenot, professeur des universités et directeur de la revue semestrielle du droit animalier. Nous les retrouverons dans le prochain numéro pour aborder la question de l'expérimentation animale. Est-elle absolument nécessaire à la recherche en sciences? Y a-t-il des solutions alternatives? Quelles contraintes se donnent les chercheurs pour limiter au maximum la souffrance et le stress de leurs animaux de laboratoire? Suite donc au prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.